Césure.
Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Césure sur Radio La Fabrique. Il est 20h et nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour parler musique classique et théâtre avec Olivier. Salut Olivier.
Ah, salut Bastien, tout va bien ?
Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, pour ce mois d'avril, nous allons vous proposer une nouvelle rubrique.
Une nouvelle rubrique, nous allons exceptionnellement ne pas faire de reportage pour proposer, vous verrez pourquoi, un thème cinéma, la musique dans le cinéma et le théâtre dans le cinéma.
Voilà, nous ferons une espèce de rubrique flashback au début du cinéma et de ce que le cinéma a pu apporter au théâtre et à la musique classique. Autrement, nous aurons notre agenda comme chaque mois, puis nous vous présenterons une œuvre, Médée, et nous recevrons en fin d'émission
Philippe Mattet, l'abbé Philippe Mattet, et vous verrez, vous serez étonné par cette personne extraordinaire qui nous parlera de la rénovation exceptionnel de l'orgue de la Notre-Dame-des-Grâces au Grand Lancier à Genève, et vous verrez tout le processus et comment ça s'est fait.
Alors pour commencer, parlons peu, parlons bien. L'agenda, Olivier, qu'est-ce qu'on va voir ce mois en termes de musique classique ?
Alors, il y a beaucoup de choses, des choses assez originales, je dois dire. Alors pour commencer, le 17 avril à 20h à la salle Paderewski de Lausanne, magnifique salle sur les Hauts de Lausanne, l'Orchestre Roman des Jeunes Professionnels vous propose le concert de printemps en association avec la brasserie de Montbenon.
Ah voilà.
Donc c'est concert et dégustation de bière.
Ah ça c'est intéressant.
Je vous invite à vous rendre sur leur site www.orjp.ch. Mais le programme musical lui est fantastique avec la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven. Et aussi une création spéciale pour l'orchestre de Guy-François Leuenberger avec mezzo-soprano Marina Viotti. Ensuite, un autre projet absolument extraordinaire, il s'agit de la légende du château de Chillon, un ciné-concert écrit, réalisé et composé par Théo Schmidt. Donc ça, c'est l'orchestre qui passe par là, à Lausanne, qui a mandaté ce réalisateur et compositeur pour créer le troisième volet de sa trilogie. Et ce sera donné le 22 avril à la salle Métropole de Lausanne. Alors, je vous dis tout de suite, c'est complet.
Ah, c'est complet.
Mais alors, comment aller écouter, comment aller voir ce film ? Il faut aller sur la plateforme WeMakeIt, WeMakeIt.ch. Et la générale du 21 avril est ouverte au public. Et il y a aussi des centaines et des centaines de places à pourvoir. Et je vous engage à aller voir ce spectacle extraordinaire par un orchestre, un chœur, le chœur Musec. Un total de 100 musiciens sur scène qui sera aussi dirigé par le réalisateur. Et j'ai pu entendre la musique, c'est absolument fantastique. Et je crois qu'il est déjà connu à la place vaudoise, mais qu'à Genève, on a tout à gagner à aller voir ça, à se déplacer à Lausanne, 21 avril, à la salle Métropole, aller sur la plateforme WeMakeIt. Sinon, sur place, ce ne sera pas possible. Ensuite, le festival d'orgue de cinéma du Collège Claparède, c'est-à-dire que le Collège Claparède, comme on le sait, a fait rénover il y a quelques années un orgue Wurlitzer, et c'est un instrument absolument fantastique avec des tirettes qui font des bruits de percussion, des choses, on écoutera un extrait tout à l'heure, c'est assez génial. Mais du 26 au 28 avril au Collège Claparède, renseignez-vous sur le programme sur le site orgdecinema.ch. Il y aura notamment le samedi 28 avril à 17h un après-midi dessin animé avec les étudiants de la HEM qui joueront de cet orgue pour les plus petits, c'est gratuit, voilà, samedi 28 avril. Et encore, un petit clin d'œil à une amie, Lisa Hageman, le 12 avril au Grand Lancy et le 15 à Collebossy, Tonos Humanos, Renaissance Espagnole, un concert qui redécouvre des compositeurs de la Renaissance Espagnole pour un trio d'alto, de viol et de guitare.
Magnifique.
Et du point de vue théâtre, Bastien ?
Alors du point de vue théâtre, je vais vous proposer quatre choses à aller voir ce mois-ci. Tout d'abord, dès demain, le cabaret de l'Innommable et de l'Interdit au Saltimbanque, qui est à la rue des Grottes. C'est donc dès demain jusqu'au 8 avril, jusqu'à dimanche. À 20h, sauf le dimanche, à 17h, vous pouvez réserver vos places au cabaret de l'innommable @gmail.com. Le concept, tester les limites de l'humour et aussi les limites de la forme, tout ce qu'on n'ose pas faire en général au théâtre, alors les comédiens le tenteront devant vous sous la forme d'un cabaret. Je vous propose ensuite d'aller au théâtre du Grütli, voir Un si gentil garçon, du 5 au 15 avril, d'après le roman de Javier Gutiérrez, mise en scène Denis Lavalou et Cédric Dorier. Un si gentil garçon nous plonge dans le destin de 5 trentenaires, 2 femmes et 3 hommes, dont la jeunesse a été bouleversée par des crimes sexuels. Vous retrouverez sur la scène du Grütli 5 comédiens, une performeuse visuelle et 3 musiciens live, à ne pas rater. Ensuite, je vous propose d'aller au théâtre de l'Alchimique à Carouge, voir Le processus Kafka, adapté et mis en scène par Daniel Wolff. Le processus Kafka est une adaptation théâtrale du procès de Kafka, donc du livre
Le procès de Kafka.
Exactement, qui a été adapté donc par Daniel Wolff. À découvrir au théâtre de l'Alchimique, c'est du 10 au 29 avril.
Ça, j'ai vu les gens qui vont jouer dedans. Je vous le conseille vraiment parce que la team est incroyable.
Voilà, j'allais le dire, les comédiens, il faut aller déjà pour la pièce, mais en plus pour les comédiens, je donne quelques noms. Jean-Loïs Belbachir, Caroline Cons, Laurent Désus, Armen Godel, Cléa Eden, Jacques Médère, Jacques Maître et Patricia Mollet-Mercier. Il faut aller les voir. Et une dernière chose, allez voir les deux spectacles en un, Migre et Les visages cachés de ma ville 2, écrit et mis en scène par Myriam Boukris. C'est à la Comédie de Genève du 17 avril au 5 mai 2018. Ce sont deux créations sur la migration. Myriam Boukris travaille pas mal avec des migrants et fait un travail formidable sur la médiation culturelle avec eux. Voilà, c'est tout pour moi.
Alors, non, passer à la présentation du nœud. Vous êtes beaucoup à nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous dire que c'est une rubrique qui vous plaît. On va essayer de ne pas vous décevoir cette fois. Mais petite introduction musicale, peut-être.
À tout de suite.
Vous verrez, pendant l'émission, on a beaucoup d'extraits, donc on va devoir souvent couper. On va essayer de le faire filmant. Mais on commence par une petite intro.
Avant d'envoyer l'intro, je vais juste vous dire qu'on va donc parler de Médée. Pourquoi Médée ? Pour le spectacle Verso Médéa, écrit et mis en scène par Emma Dante, une metteuse en scène et dramaturge italienne extrêmement en vue ces temps, qui est notamment passé par Genève en janvier 2016 à la Comédie de Genève avec les Sorelle Macaluso, qui a eu un grand succès. Verso Medea, donc de Emma Dante, ce sera le 10 avril au Théâtre Forum Mérin. On écoute un extrait musical.
Teresa Berganza, la mezzo-soprano, avec l'orchestre royal de la maison de l'opéra à Covent Garden à Londres. Alors, Médée,
un petit résumé. Médée, comme vous savez peut-être, ça vient de la mythologie grecque. Petit résumé rapide, tout commence lorsque les Argonautes menés par Jason arrivent en Colchide pour prendre la toison d'or. Celle-ci est détenue par le roi de Colchide qui n'est autre que le père de Médée. Mais Médée tombe amoureuse de Jason. Lui voit en elle un moyen d'obtenir la toison d'or grâce au pouvoir magique de Médée. Et grâce à elle, les Argonautes triomphent et partent avec la toison d'or. Pour remercier Médée, Jason propose de l'épouser. Jason et Médée, avec les Argonautes, s'enfuient alors, poursuivis par le père de Médée, qui ne veut pas laisser filer la toison. Alors, pour le retarder, Médée a une idée relativement macabre, qui est celle de tuer son propre frère et de le dépecer.
Normal,
oui. C'est ce que
moi, je le fais tout en même temps.
Et ainsi, elle jette les morceaux de son frère un à un pour ralentir le roi et toute sa clique qui arrive derrière, puisque le roi et ses troupes souhaitent réunir les morceaux pour offrir au prince héritier une sépulture digne. Voilà, oui, c'est comme ça qu'ils arrivent à semer le père de Médée. Les amoureux arrivent ensuite chez Jason, à Iolcos, où Pélias a tué le père de Jason pour prendre le pouvoir. Médée venge alors Jason d'une manière aussi assez amusante. Elle montre aux filles du roi comment rajeunir leur père. Pour cela, elle prend un bélier qu'elle met dans une marmite. Non, elle prend un bélier qu'elle coupe. Elle le coupe, elle aime bien couper les gens. Elle le met dans une marmite et puis il en ressort un agneau. Alors elle
le
dit
bélier devient un agneau.
Voilà, exactement. Elle dit de faire la même chose avec le roi Pélias. Ses filles le découpent en morceaux, le mettent dans la marmite, mais là, il ne se passe rien.
Là, et voilà,
et voilà. Là, ils se font mettre à la porte, si on veut bien, Jason et Médée. Ils sont bannis et ils vont se réfugier à Corinthe, où ils sont accueillis par le roi Créon. Mais Jason tombe amoureux de la fille du roi. La fille du roi qui s'appelle Créus. Et il souhaite se marier avec. Alors, afin d'éviter tout problème, Créon bannit Médée. Mais celle-ci, pour se venger encore une fois, offre une somptueuse robe à la future mariée qui s'embrase, la brûlant, brûlant ensuite son père, donc le roi Créon, et brûlant aussi tout le palais.
En fait, Médée, c'est une semaine d'anecdotes sur 20 minutes de pensillage.
C'est à peu près ça. Ouais. Elle finit ensuite par tuer ses propres enfants qu'elle a eus avec Jason comme dernière vengeance et s'enfuit sur un char tiré par des serpents ou des dragons, ça dépend des versions.
Et je préfère avec les serpents.
Ouais, moi aussi j'aime mieux. La plupart des, je m'arrête ici parce que l'histoire continue encore, mais la plupart des versions, des adaptations s'arrêtent là, mais l'histoire continue après. Elle va encore se remarier. Enfin bon. Médée a inspiré bon nombre d'auteurs et d'artistes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On le voit avec Emma Dante au Théâtre Forum Mérin. On retrouve aussi le personnage de Médée dans plusieurs cultures. Je vais vous faire un petit parler de quelques grands auteurs qui ont adapté Médée. Tout d'abord, Euripide, qui pose la base. C'est une tragédie grecque produite en 431 avant Jésus-Christ. Euripide est un des premiers à écrire le mythe de Médée pour le théâtre. Il fait commencer l'action alors que Jason a déjà rejoint Créuse. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque, une grande partie connaît évidemment la mythologie grecque, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de tout expliquer ce qui s'est passé. Et en général, on explique tout. Ce sont des personnages, des messagers en général, qui expliquent tout ce qui s'est passé avant.
Un peu le principe de aide-moi dans l'opéra, l'immense blanc.
Les
récitatifs, voilà. C'est un peu le principe des récitatifs.
Voilà, exactement. Là, en plus, on a le chœur de tragédie avec le coryphée qui dirige le chœur, qui dit tout ce qui s'est passé avant. Euripide fait de l'infanticide de Médée un acte délibéré. Alors que d'habitude, les infanticides sont souvent des conséquences de moments d'égarement envoyés par les dieux. On avance un peu, je vous parle maintenant de Sénèque.
Sénèque
est un type très sympa. Qui
très
faisait,
drôle, plein de fantaisies,
qui a fait des tragédies romaines, donc après celle des Grecs. Il a certainement écrit sa tragédie, donc Médée, au début du 1er siècle de notre ère. Sénèque s'inspire donc des tragédies grecques pour écrire son théâtre romain. Et dans ce cas, il s'inspire de la pièce d'Euripide. Il fait de Médée un personnage plus naïf et prêt à tout pour l'amour de Jason. À la fin, d'ailleurs, on voit Médée dans une grande hésitation qui est tiraillée entre son amour maternel pour ses enfants et sa colère et son envie de vengeance qu'elle a envers Jason. Rappelez aussi qu'une des caractéristiques de la tragédie, c'est que c'est impossible et nécessaire.
Ouais, ouais.
Voilà, essayez de vivre avec ça, c'est pas tous les jours facile. Je continue un peu à avancer, si vous le voulez bien, pour vous parler de Corneille. Corneille qui reprend aussi cette tragédie en 5 actes, comme on le faisait à l'époque, écrite en 1635 en alexandrin. Médée est la première tragédie de Corneille qu'il écrit après s'être illustré dans la comédie.
J'aurais jamais pensé qu'il écrivait en alexandrin, parce que moi je connaissais ses albums.
Donc on ne parle pas du même.
Ah bon, d'accord.
Je vous parle donc de Corneille de 1635. Corneille ajoute des personnages dans sa tragédie, comme Pollux qui est un des confidents de Jason. Il complexifie aussi quelque peu sa tragédie. Ainsi, pour le spectateur, c'est plus difficile de condamner Médée, de ne pas la traiter de sorcière folle, alliée, avec une envie de vengeance constante. Corneille crée par là une tragédie plus psychologique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Corneille écrit sa pièce à un moment assez charnière dans le théâtre. C'est entre le théâtre baroque et classique. On retrouve pas mal de ce qui se passe dans le baroque à l'époque, du spectaculaire du baroque, ainsi qu'avec les éléments merveilleux ou le côté macabre et violent. Les personnages meurent sur scène en général, alors qu'avant on les planquait plutôt en coulisses. Il meurt dans d'atroces souffrances et dans d'interminables monologues. À côté de ça, la pièce a une structure très classique en actes, comme ça se faisait à l'époque, qui commence à s'imposer à cette époque aussi avec les unités de lieu, de temps, etc. Il y a aussi une grande différence dans la pièce de Corneille, c'est que Jason se donne la mort à la fin. Voilà, alors que dans les autres, il continue à vivre, donc ça rajoute encore du pathos. La pièce se termine par la mort de Jason. J'avance encore un peu notre histoire de temps. On arrive à Anouilh. Il écrit sa tragédie Médée, qui est publiée en 1946. Dans cette version, le mythe est quelque peu modernisé, forcément. L'action se déroule autour de la roulotte de Médée. Médée est maintenant dans une roulotte. Et Anouilh analyse plus profondément, si on veut, la question des rapports hommes-femmes qu'on peut trouver dans cette pièce. Bon, cependant, cette tragédie, Médée, a moins de succès que d'autres tragédies que Anouilh a pu écrire, comme Antigone par exemple. Pour beaucoup, il manque l'ironie coutumière de l'auteur. On voit aussi dans cette pièce Médée qui en fait fait tout ce qu'elle fait par rapport à l'amour qu'elle a pour Jason. Elle dit à un moment donné que, en voyant partir Jason, si Jason se retourne et montre des signes de regret de ce qu'il a fait, alors peut-être qu'elle n'irait pas jusqu'à l'infanticide. Pareil aussi, petit changement dans la tragédie d'Anouilh, Médée se suicide à la fin, ouais, après l'infanticide. Et j'en arrive à la dernière version que j'aimerais vous présenter, la version de Heiner Müller, écrit en 1982, c'est beaucoup plus contemporain, formé de trois textes, Rivage à l'abandon, Médée matériaux et Paysage avec Argonautes. Le tout s'appelle Médée matériaux, ce qui constitue un triptyque politique, érotique et métaphysique portant sur le joyeux nihilisme de nos sociétés actuelles. Voilà ce qui est dit. Heiner Müller dit, d'ailleurs en répondant à une critique sur cette pièce, le théâtre établi dans la déchirure entre le temps du sujet et le temps de l'histoire est l'une des dernières demeures de l'utopie. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation.
Figure-toi que du point de vue musical, ça a aussi été une source d'inspiration, son nom. L'extrait qu'on a entendu avant était de Luigi Cherubini, qui a composé l'opéra Médée le plus célèbre, l'opéra comique en trois actes, sur un livret de François-Benoît Hoffmann. Et cet opéra de Cherubini a beaucoup inspiré les compositeurs romantiques, notamment Johannes Brahms, qui a écrit « Médée, que nous autres musiciens reconnaissons comme le sommet de l'art lyrique ». On sait que les admirateurs étaient aussi Beethoven, qui a entendu à Vienne, Schubert, Weber, Spohr et Wagner. Donc c'est pour dire qu'un drame pareil, ça a suscité beaucoup d'inspiration pour tous ces gens qui vivaient un peu au cœur de l'action, au cœur du drame. Mais il y a aussi des Médées de Charpentier, Salomon, Benda et Naumann. Cette pièce est un peu tombée dans l'oubli, le Médée de Cherubini, jusqu'à que notre ami de chaque mois, Leonard Bernstein, comme on dit en Suisse allemande, offre le rôle à Maria Callas en 1953 et que le public redécouvre cette merveille de la musique. Maintenant, nous allons parler Cinoche.
Parlons Cinoche.
Mais attention, c'est pas si simple que ça. Petit extrait, petit quiz. À toi, Bastien. Donc, j'en reviens à mon petit quiz. Bastien Blanchard, de la musique de quel film s'agit-il ?
Voilà, tu me poses une colle. Je sais ce que c'est, la musique, mais je ne sais pas de quel film c'est tiré.
Eh ben, de aucun. Non, étonnamment, le premier compositeur de musique de film, si on veut bien, était Hector Berlioz, donc qui était totalement avant le cinéma, parce que c'est le premier compositeur à avoir investi sa musique d'aspect cinématographique en inventant la symphonie à programme. Ça veut dire que les gens, en écoutant une musique comme on vient d'entendre, qui est très imagée, donc là, il s'agissait de sa symphonie fantastique, le cinquième mouvement, il pouvait lire un programme avec des textes. Par exemple, là, pour ce qu'on vient d'entendre, attendez. Pour ce qu'on vient d'entendre, il s'agit d'une nuit où les monstres sortent, etc. Et puis c'est très terrible. Et puis en fait, on se représente très bien ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit un traité d'orchestration, Hector Berlioz, qui a ensuite inspiré tous les compositeurs de musique de film, tant ils étaient précis et imagés. Par exemple, pour la clarinette, mon instrument, Berlioz écrit « Le caractère des sons du médium, empreint d'une sorte de fierté qui tempère une noble tendresse, les rend favorables à l'expression des sentiments et des idées les plus poétiques. La frivole gaieté et même la joie naïve paraissent seules ne point convenir. La clarinette est peu propre à l'idylle. C'est un instrument épique, monsieur, comme les cors, les trompettes et les trombones. Sa voix est celle de l'héroïque amour, etc. etc. » Mais c'est pour dire qu'à travers des notions très précises, que je ne vais pas vous lire, mais il explique quel instrument... quel instrument convient à quel sentiment, etc. Mais concernant le début de la musique et du cinéma, ça a été plutôt compliqué. Donc, la personne qui a inventé en premier une sorte de photo animée, il s'agissait de Thomas Edison en 1891. Et dès le début, il était très clair dans la tête de tout le monde qu'il allait falloir allier le son à l'image. Seulement, ça ne s'est pas fait comme ça pendant de longues décennies. Mais leur histoire est liée. Parce que le problème principal était que la pellicule ne tournait pas au même rythme que les disques ou que les bandes ou que les choses comme ça. Et en fait, ils se rendaient compte que très vite, c'était complètement décalé. Et puis pendant des décennies, ça a été impraticable. Et en fait, on avait des gens intelligents qui avaient les meilleures intentions, mais ils n'y arrivaient pas. Du coup, Émile Renault, en 1892, invente le dessin animé. Ce qui fera que les frères Lumière appelleront leur premier cinéma les photographies animées, en réponse au dessin animé.
C'est aussi Émile Renault, sauf erreur, qui a donné le nom du cinématographe, je crois, et que n'ayant plus l'argent pour continuer à poursuivre le nom, eh ben, il a été repris par les frères Lumière juste après.
Ouais, exactement. Et en fait, c'était aussi le premier, Émile Renault, à mettre un peu de musique sur ce qu'il a appelé les pantomimes lumineuses, qui étaient en fait un peu la commedia dell'arte, mais dessinée, etc. Donc, il y a une chose qui était très importante sur toutes les premières décennies du cinéma, c'est que la musique qui était faite en live, donc avec des musiciens, des pianistes et souvent accompagnés de violons, mais surtout, principalement, que ces gens ils improvisaient de la musique parce qu'il y avait de tels problèmes techniques qu'on ne pouvait pas se fier à une partition. Donc les types, ils improvisaient. Et puis, par exemple, ce fameux Émile Renault, son trip à lui, c'était de diffuser, de tourner ses photos de Pierrot Lunaire et tout d'un coup faire un arrêt sur image ou même de la rembobiner pour que ça soit encore plus drôle.
D'accord.
Du coup, les musiciens galéraient complètement.
Ça.
Mais bon, c'était le début du cinéma, quoi. Ensuite, entre 1902 et 1917, c'est la société Léon Gaumont qui a beaucoup réfléchi à ça sans rendre public ses essais. Et il y a notamment le compositeur Camille Saint-Saëns, Eric Satie et Darius Milhaud qui ont beaucoup travaillé avec eux pour composer des choses autour de tout ça. Après, il ne faut jamais oublier que le cinéma, comme on le connaît maintenant, c'est du grand spectacle. Mais à l'époque, c'était un peu minable parce que si on prend la grandeur de l'opéra et la capacité qu'ils avaient à faire des décors extraordinaires, ça restait quand même au final des personnages qui bougeaient très lentement, vaguement dessinés et puis dans une salle. Donc c'était en fait une activité de foire. C'est-à-dire que ça se baladait dans les fêtes foraines ou les choses comme ça. Mais bon, sautons un peu les époques. Et Edison Studio a permis enfin de composer... d'allier ce système de disques et d'images en même temps. Ça devait exactement correspondre à 10 minutes parce que c'était la seule solution qu'ils avaient trouvée. Mais ils ont commencé avec ça. Et puis, il y avait toujours de l'improvisation qui était assez présente parce que les gens qui tournaient la pellicule, au bout d'un moment, ils fatiguaient un petit peu.
Ils ralentissaient.
Et puis, du coup, ils étaient obligés. Des fois, ça correspondait plus du tout parce que la musique continuait et que le type était dans son rythme et puis qu'ils étaient plus du tout synchronisés. Et aussi, après, il y a eu tout le développement des bruitages avec le feu, fait avec du papier, ce genre de choses. Voilà. Igor Stravinsky lui dira de la musique de film qu'elle a une fonction de papier peint. Donc, actuellement, il y a plusieurs catégories de musique de film. Il y a les bandes originales classiques, c'est-à-dire que c'est une musique qui est écrite pour le film. Et puis après, il y a la BO d'artistes populaires, comme on a les génériques de James Bond ou ouais. comme ça, qui sont aussi concrets à faire un peu de l'agitation autour des films. Les morceaux déjà existants, bien sûr. Et la musique de catalogue, on n'en parle pas beaucoup.
Musique de catalogue.
Mais ça existe encore.
D'accord.
C'est les maisons genre Universal ou Warner Bros. Comme ça, qui ont des compositeurs qui bossent tout le temps. Et ils proposent des styles de musique avec des noms d'ambiance, par exemple, j'en sais rien, clair de lune ou sentimental.
D'accord.
Et les types, ils ont des bouquins énormes de partitions et ils peuvent piocher en achetant dedans, en disant, par exemple, parce qu'on ne se rend pas compte, même quand il n'y a pas de musique, il y en a toujours. Il y a toujours un violon qui tient quelque chose ouais. ou quelque chose comme ça. Donc, je vous propose d'écouter. Est-ce qu'on a combien de temps, Bastien?
Oh là, on peut écouter, on peut se faire une petite écoute.
On peut se faire une petite écoute.
D'un célèbre compositeur.
C'est lequel?
Je vous laisse écouter.
D'accord. Donc évidemment, la musique d'Ennio Morricone pour quelques dollars de plus. Donc Ennio Morricone, c'est quand même un compositeur qui peut-être s'est démarqué justement de ce qu'on disait à propos de Berlioz, dans le sens où il a inventé des codes de la musique western. Mm. Et Dieu sait si les westerns étaient nombreux à l'époque. Mais par exemple, en se disant que quelqu'un qui siffle une guitare électrique, une flûte de pan et des cloches tubulaires, ça fera western. C'était quand même fortiche parce que ça correspondait à rien. C'était un style western, bon, la musique country music, mais c'était un peu le premier à essayer des nouveaux alliages pour faire ressentir d'autres émotions. Après, dans les compositeurs célèbres, on ne va pas vous faire non plus, je veux dire, tous les Seigneurs des Anneaux. On est bien d'accord, John Williams. Ou comme ça, mais il y a aussi tout un courant de compositeurs qui étaient cinéastes, notamment Charlie Chaplin, évidemment, qui a commencé à faire les premiers tubes, parce qu'avant, vu qu'on parlait de l'improvisation, quand Charlie Chaplin a commencé à composer la musique de ses films, c'était bel et bien le premier à faire des tubes, des musiques dont les gens se souviennent. Et puis aussi, il y a toute une génération de compositeurs européens, juifs, et qui se sont exilés aux États-Unis pour fuir le nazisme. Et entre autres, c'était rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des grands compositeurs, notamment quelqu'un qui s'appelle Eric Korngold, qui était un élève de Arnold Schoenberg, donc un des piliers de l'art contemporain du début du XXe siècle. Et c'est tous des gens qui sont un peu compromis en faisant de la musique de cinéma. Et les gens comme Stravinsky ou Schoenberg disaient d'eux ouais, qu'ils sont perdus et puis qu'ils font de l'argent. Mais en fait, ils avaient quand même amené une certaine richesse dans leur musique qui était sensationnelle. Je vous propose par exemple, pour conclure ma partie musicale, d'écouter un extrait de cet Eric Korngold avec un film de pirate. Voilà, la musique d'Eric Korngold, un petit aperçu de l'introduction du film. Du point de vue théâtral, qu'est-ce que ça a bouleversé, Bastien ?
Alors, du point de vue théâtral, ça a bouleversé beaucoup de choses, le cinéma. Ça arrive déjà à un moment assez charnière. Ça correspond à peu près à l'arrivée du métier de metteur en scène, en fait, en théâtre. Parce qu'avant, les acteurs jouaient suivant des conventions. Et c'est à peu près à partir de la moitié du 19e siècle, et en France, avec André Antoine, à partir de 1887, que le métier de metteur en scène arrive vraiment sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où on commence à parler des acteurs, des interprètes, où on commence à interpréter des œuvres et on ne parle plus seulement des auteurs. C'est aussi un moment où je pense que le cinéma aussi y a beaucoup contribué au mouvement qu'on a appelé naturaliste. C'est-à-dire que en théâtre, en principe, sur une scène, on dit que ce n'est pas la réalité, c'est plus grand, on déclame, il y avait avant beaucoup de déclamations, de lyrisme sur les scènes de théâtre. Et on arrive à un moment où on essaye d'être le plus proche possible de la réalité. Les décors sont de plus en plus réels et le jeu des acteurs doit aussi être de plus en plus réel.
Parce qu'on n'a pas besoin de les voir depuis le dernier rang.
Voilà.
Principalement.
Alors ça arrive justement à peu près en même temps que le cinéma. Le fait que au cinéma aussi, on doit jouer le plus naturellement possible en général. C'est des grands noms tels que Stanislavski, par exemple, ont écrit des livres pour expliquer comment jouer le plus naturel possible. On a découlé l'Actor Studio de Lee Strasberg aux États-Unis, qui a appris notamment aux acteurs de cinéma comment jouer le plus réaliste possible. Je dirais aussi que le cinéma a apporté au théâtre l'art du montage, dans le sens que on séquence une action, on la découpe, il y a des scènes qui passent assez rapidement, il y a une grande liberté au sein du cinéma qu'on n'avait peut-être pas forcément au théâtre et qui est arrivée plus tard au théâtre avec des pièces où l'écriture se passe très rapidement d'une scène à l'autre, passe aussi très rapidement, il n'y a plus l'unité que justement je vous parlais de Corneille juste avant, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, ça peut se dérouler sur plus longtemps. Il peut y avoir ce genre de choses. On le retrouve par exemple chez Joël Pomera en ce moment ou chez Wajdi Mouawad, cette manière de séquencer le théâtre. Le cinéma aussi est un bon moyen de puiser aussi là-dedans, et inversement, le cinéma aussi puiser dans les pièces de théâtre pour faire des films. Par exemple, un exemple le plus connu peut-être le Dîner de cons. Voilà. Mais aussi au théâtre, on a vu récemment au Théâtre Forum Merrin Le Dernier Métro de Dorian Russell, ouais. Qui était un film de François Truffaut. Parce que je pense qu'il y a peut-être une petite jalousie chez les théâtreux au théâtre du fait qu'au cinéma, on a beaucoup plus de liberté, on peut se permettre beaucoup plus de choses et on a des moyens techniques aujourd'hui qui nous permettent de faire énormément de choses qu'au théâtre, on est contraint d'avoir une salle, un lieu, une scène avec un public, puis ça ne bouge pas tellement.
Et ça reste un peu 19e siècle, quoi. Non, ça reste pas 19e siècle, on s'entend.
Il y a cette chose où, bah, ma foi, on doit faire avec les moyens et le cinéma, on a peut-être plus de liberté. Voilà, on arrive à la fin de cette rubrique.
Évidemment, c'est court.
Sur le cinéma.
C'est court pour vous présenter le cinéma, on est bien d'accord.
Mais on souhaitait aussi vous parler des influences aussi que le cinéma a pu avoir sur le théâtre et la musique classique.
C'est en lien pour annoncer le festival d'orgue de cinéma aussi qui a lieu au Collège Claparède. Et par la même occasion, avant de passer à l'invité du jour, Philippe Mattet, nous allons écouter un extrait d'orgue de cinéma, l'orgue Wurlitzer. Merci.
Donc l'orgue de cinéma, on rappelle, c'est cet orgue avec plein de bruits qu'on
peut
faire.
Plein de tirettes, de percussions, de sifflets.
Il y avait des improvisations de...
Bah oui, évidemment, mais d'ailleurs, n'hésitez pas, parce que c'est tellement drôle à voir jouer, allez sur YouTube, mettez orgue de cinéma.
On peut
vous mettre la vidéo sur Facebook, bien sûr. Très bien.
À tout de suite. Hit it, Joe!
Thank you. Joe, I think we've got our viewers tuned in.
Voilà, alors, belle transition pour parler d'un autre style d'orgue. J'ai le plaisir de t'accueillir, Philippe. Bienvenue dans Césure, l'émission. Tu viens nous parler d'un projet un peu fou que tu as eu. Il me semble que c'est toi qui l'as eu il y a quelques années. Est-ce que tu veux nous en dire plus ?
Volontiers, oui. Non, alors, ce n'est pas moi qui l'ai eu. Je suis au Grand Nancy, dans l'église de Notre-Dame-des-Grâces, au Grand Nancy. Et puis, lorsque je suis arrivé dans cette église, il y avait un orgue en tribune qui était silencieux depuis longtemps. On m'a expliqué qu'il avait eu plein d'aventures. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a brûlé. Et puis, il y avait quelques personnes à la paroisse qui avaient depuis un certain temps le rêve de restaurer cet instrument. Ça ne s'était pas fait. Et Pierre-André Bise et Pierre Ray, les deux plus engagés là-dedans, m'ont posé la question « Est-ce que tu aimes la musique ?» J'ai dit « Évidemment, j'aime la musique, j'aime beaucoup la musique. Est-ce que tu aimes l'orgue ?» « Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on restaure cet orgue ?» J'ai dit « Moi, je suis partant avec vous. » Et puis, on est parti comme ça. Donc, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais j'ai vraiment encouragé cette aventure un petit peu folle parce que ce n'était pas gagné par avance d'un instrument dont on ne savait même pas très bien qu'est-ce qu'il avait dans le coffre.
Excuse-moi, en fait, j'étais un peu mal présenté. Donc, il s'agit de Philippe Mattet, le curé de la paroisse des Rives de l'Air, donc qui est le curé en place à l'église Notre-Dame-des-Grâces à Grand-Lancy, où il y a un magnifique orgue qui, effectivement, était silencieux. Alors, moi, j'ai allé sur votre site internet, le site de la restauration de l'orgue, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'informations, notamment quelque chose qui m'intéresse, il s'agit de la réforme cécilienne. C'est-à-dire que l'orgue qui a été construit en 1913 par un facteur italien était dans une mouvance très particulière, celle un peu de l'austérité, et ensuite ça a été modifié. Donc actuellement, où on en est, est-ce que l'orgue va revenir à l'origine dans ce style italien du début du XXe siècle, ou est-ce que c'est plus moderne, est-ce que c'est modernisé?
Alors, on va évidemment reprendre ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire cette période de la musique italienne, la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais c'est assez intéressant parce que dans l'Église, comme du reste dans le reste de la société, il y a toujours eu des espèces de vagues qui allaient de temps en temps de l'enthousiasme à l'austérité. Tout d'un coup, quand on vient trop enthousiaste, on devient austère et vice-versa. Ouais. Donc ces réformes, il y en a eu tout le temps dans l'Église. Ouais. Ce qui est intéressant avec l'orgue, c'est que l'orgue, c'est une forme de musique qui est assez permanente dans l'histoire de l'Église et de la liturgie et de la musique à l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est un instrument qui n'est pas un instrument d'opéra, qui n'est pas un instrument qui fait des choses assez invraisemblables. C'est un instrument qui rassemble en lui-même tout un orchestre, mais qui peut simplement aussi accompagner de façon très sobre la voix humaine.
Ouais, exactement. Ouais.
Donc aujourd'hui, on a dans la tradition liturgique catholique, on a un certain nombre de musiques, on a un répertoire de chants qui sont certains assez traditionnels, d'autres qui sont un petit peu plus rythmés, d'autres qui sont issus de chorales de la période baroque.
Ouais.
Et puis l'orgue, il permet d'accompagner un peu tous ces chants.
Justement, ce qui m'a eu, parce qu'on avait reçu Vincent Thévenard, un peu pour faire le lien entre catholique et protestant, si on veut dire, on avait reçu Vincent Thévenard pour nous parler de sa carrière, etc. Et justement, maintenant, j'ai l'impression que les styles se mélangent. Donc, tu parlais des chorales de Bach, par exemple, les plus connues. C'est donc celle-là. Après la réforme, ils ont instauré toutes ces traditions du chant par l'assemblée, de choses assez simples. Somme toute, on peut chanter soit la mélodie, soit des voix annexes pour ceux qui pouvaient. Et maintenant, tout se mélange un peu. Comment toi, tu te positionnes vis-à-vis de ça? Est-ce que le but, c'est que les gens chantent, peu importe le compositeur.
Oui. Oui, parce que la musique, pour moi, c'est vraiment un langage extraordinaire. Et puis, je trouve que c'est assez sensationnel quand tout le monde peut y avoir accès. Alors, les assemblées liturgiques, elles sont formées de gens qui sont amateurs de musique et d'autres pas. Et puis, tout le monde peut chanter. On a tous une voix, on peut tous en faire quelque chose. Si bien que moi qui suis très mélomane, qui connais bien la musique et qui aime la musique...
Tu chantes dans un chœur depuis peu, non ?
Voilà, c'est ça, au chœur de l'université, oui.
Ah, voilà, ouais. Ouais.
Moi, je trouve que quand on peut faire quelque chose avec sa voix, c'est sensationnel. Et puis, même les gens qui ne sont pas du tout des initiés, s'ils se rendent compte qu'ils peuvent, avec des chants assez simples, qui ne sont peut-être pas construits de façon très sophistiquée, mais des musiques assez simples, quand une assemblée peut chanter, il y a forcément quelque chose qui se passe.
Ouais, ouais, ouais. Alors c'est rigolo parce que ça va dans cette simplicité recherchée, que la musique soit à portée de tous et qu'on puisse chanter voilà, tous les chants religieux à une seule voix. Mais en même temps, quand on revient, si on veut un peu revenir à l'orgue, il y a plein de styles différents d'orgue. Il y a des styles français, le style allemand, et on ne parle pas forcément de composition, mais aussi de la facture des choses. Et justement, je sais qu'en 1927, 28, 29, au Grand-Lancy, il y a eu une sorte de petit drame, il y a une modification importante sur l'orgue. Est-ce que il s'agissait de le transformer en orgue français, un peu?
Alors, le but, ce n'était pas de transformer en orgue d'une autre nation. Le but premier, c'était de lui donner plus d'ampleur. Ouais. Et un petit peu aussi avec l'esthétique de l'époque, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus brillant, d'un peu plus éclatant.
Ouais.
Un petit peu, sans que ce soit négatif, mais un peu plus style fanfare. Donc, ils ont ajouté des trompettes. Et ils ont modifié, au fond, la composition d'origine. Ce n'était pas inintéressant. Mais disons que l'instrument et même son mécanisme ne permettait pas de valoriser totalement ce qui avait été ajouté.
Et je crois justement pour vous autres, vous avez presque dû faire les archéologues à la paroisse pour essayer de retrouver un peu le style d'origine. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des devis, des choses comme ça. Ouais. C'était un travail de longue haleine.
Alors on est allé dans les archives, c'est assez intéressant de voir tout ce qu'il y avait. Bon, c'était assez facile de voir qu'est-ce qui avait été ajouté, du reste de façon même un peu bricolée, parce que certains tuyaux qui étaient plus grands n'avaient pas la place, ils ne pouvaient pas mettre la place dans le buffet, donc il a fallu les couder. Il y en a quelques-uns qui étaient retenus par des ficelles, c'était assez rocambolesque. Hein. Non, ce n'était pas très compliqué de revenir à la composition d'origine pour retrouver à cet instrument sa pureté de départ. Ce qu'on peut mentionner, c'est que l'une des caractéristiques de cet instrument, c'est que c'est un orgue pneumatique. Et qu'à la différence des orgues mécaniques de la période baroque, c'est un orgue qui permet peut-être un peu plus d'ampleur. C'est un orgue qui joue plus facilement la musique romantique, qui est peut-être un petit peu moins vif que la période baroque. Et puis, ça aurait été un petit peu dommage de vouloir faire du baroque avec cet orgue romantique.
Oui, tout à fait. C'est marrant parce qu'on parlait avant un peu de l'austérité. C'est-à-dire que même s'il recherchait à retrouver un peu d'austérité avec ce style sicilien, en fait, ça restait au sortir de la musique romantique, donc déjà beaucoup plus de recherche harmonique, etc. Et c'était un orgue allemand qui avait le juste tempérament. C'est-à-dire que je crois qu'il existe un orgue à Genève, petite colle, tiens, et je crois qu'il existe un orgue à Genève qui n'est pas tempéré. Donc tempéré pour nos auditeurs. Ouais. C'est le fait qu'en fait, on ne peut pas changer toutes les tonalités comme on veut à l'époque. Quand ça a été une recherche déjà depuis l'Antiquité. Ils ont cherché à pouvoir passer, par exemple, de Do majeur à Fa dièse majeur sans que ça soit une horreur pour les oreilles. Et puis pendant des siècles et des siècles, ce n'était pas possible. Et puis justement, avec cet orgue, c'en est un, entre autres, mais c'est comme c'était partout le cas. Mais Bastien, toi, tu sais,
ça me dit quelque chose.
Il est en ville, cet orgue. Justement, ce qui est extraordinaire, si on écoute un orgue qui est non tempéré, c'est qu'il y a des intervalles qui sont beaucoup plus petits. Par exemple, la tierce majeure, elle n'est pas comme nous, on a sur un piano très haute, elle est beaucoup plus basse. Et quand on entend dans la tonalité qui est conçue pour l'orgue, ça résonne vraiment beaucoup plus clair et ça parle vraiment plus. Mmh. Parce que tout d'un coup, ça correspond en fait aux harmonies qu'il y a dans la nature. Et puis maintenant, tous les orgues et les pianos, c'est des compromis, c'est d'essayer de tout tasser pour pouvoir passer facilement d'une tonalité à une autre. Mais justement, en parlant un peu de ça, je crois que ce qui a achevé l'orgue du Grand-Lancy, c'est quand ils ont essayé de monter le diapason de la chose. C'est-à-dire qu'il était en 435 Hz, et pour le monter en 440, comme on joue actuellement. Et je crois que c'est à partir de là qu'il était plus utilisable, non ?
C'était pas vraiment ça. C'est que d'une part, il commençait à s'essouffler.
Ouais.
D'autre part, pour ceux qui sont déjà allés dans cette église, on est frappé par la dimension de l'édifice et la hauteur de la tribune qui est assez disproportionnée par rapport à l'édifice. Donc l'orgue est très haut, la tribune est très loin. Et il est vrai que c'est un peu plus difficile d'avoir une bonne correspondance entre l'orgue et le chœur. Je pense que ça, c'était un des problèmes. Le deuxième problème, c'était son essoufflement. Et puis le troisième problème, je ne crois pas que c'est tellement sa tonalité. Mais c'est qu'à un moment donné, lors d'un concert, par inadvertance, quelqu'un a dû actionner le moteur des soufflets, machinerie. Et c'est resté allumé et ça a grillé. Voilà. Donc, c'est pas tellement
lié. Une intervention
lié.
Divine.
Voilà, non. C'est ça. C'est le feu de l'esprit qui est descendu. Et puis maintenant, une bonne vingtaine d'années après, c'est le souffle de l'esprit qui a redonné voix.
Ouais. Et justement, maintenant, grâce à des facteurs d'orgue de Côme, vous avez pu le remettre à neuf. C'est un peu un milieu entre la version d'origine et ensuite le style français qui avait été essayé d'être mis. Mais en tout cas, il sonne bien, il est réparé et vous avez construit un festival autour de cet orgue. Ouais. Il aura lieu en avril.
En avril prochain, oui. Ça, c'est vraiment l'accomplissement du rêve. Non pas la fin du rêve, mais l'accomplissement pour donner vie ensuite. Donc, on a trois soirées les 13, 14 et 15 avril prochains dans cette église où on voudrait faire écouter différentes facettes de l'instrument par deux soirées récitales, par un samedi après-midi avec les enfants, les jeunes des classes d'orgue du conservatoire, avec un moment porte ouverte et avec un concert de clôture, voix, soprane, trompette et orgue.
Bon, ça, je pense que justement, ça va être... J'ai vu le programme, c'est magnifique. Il y a des grands concertistes. Le dimanche, ça clôture aussi avec une sorte de concert de gala avec des personnalités genevoises. Il y a Gérard Métraillé qui est trompette à l'OSR, trompettiste solo à l'OSR. Et Diego Innocenzi, qui vous a beaucoup aidé dans la rénovation de l'orgue. Mais le samedi après-midi, je pense que ça peut vraiment être un grand moment avec cette porte ouverte. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux familles qui viendraient, pourquoi elles viendraient un samedi après-midi, le 14 avril, voir cette porte ouverte?
Déjà parce que c'est un instrument que personne ne connaît ou qu'on connaît de l'extérieur. Pour un certain nombre de gens, qui dit orgue, dit église ou enterrement, donc tristesse, et puis on voudrait montrer que ça peut être autre chose. Alors, on a contacté toutes les familles du Caté, toutes les familles qu'on connaît, en leur disant, venez, voyez, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des ados qui jouent de l'orgue, qui sont assez sensationnels. Et puis, on aimerait surtout aussi montrer ce que c'est que cet instrument, qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme. C'est assez extraordinaire. C'est déjà beau à voir, c'est un travail d'orfèvrerie de voir ça. Donc... je pense que même ceux qui ne sont pas forcément intéressés par la musique d'orgue, ils seront intéressés par cette espèce d'univers qui est un peu fascinant. Comme ça. Là-haut, sur une tribune où on ne monte jamais.
Fermé, ça.
Par définition, des endroits comme ça, c'est des endroits où on ne va pas. Donc on se dit, comme personne n'y va, ça doit être spécial. Si ce n'est pas accessible, on a envie d'y aller.
Bien sûr. Ouais.
Alors on voudrait dire, venez. Voilà, venez. Ouais.
Vous nous mettez en tentation. Alors peut-être on va écouter un peu d'orgue quand même et ensuite clore avec une question un peu plus large et un peu moins portée sur l'orgue. Je vous propose d'écouter de Bach, Jean-Sébastien Bach, Jesu bleibt mein Freunde, comme ma joie demeure.
Thank you.
Nous sommes toujours avec Philippe Matet, abbé à la paroisse du Grand Lancy, paroisse des Rives de l'Air, pour parler de la rénovation de l'orgue Gandini. Toutes les informations et puis des images sont aussi à trouver sur le site www.festivalgandini.org. G-A-N-D-I-N-I. Il y a des images de la restauration, il y a les dates de festival, mais il y a un deuxième festival aussi dont tu voulais nous parler.
Oui, alors il y a cet automne deux concerts encore qui auront lieu l'un au mois d'octobre et l'autre au mois de décembre, qui veulent valoriser l'instrument, l'un avec chœur et orgue au mois d'octobre avec le chœur Pierre de Lune, et puis l'autre au mois de décembre, orchestre et orgue, avec quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment une grande fierté d'avoir cela, parce qu'on va jouer une très grande œuvre qui se joue dans des grandes salles, ici au Victoria Hall, à Genève, parce que c'est une œuvre symphonique, c'est la symphonie avec orgue de Saint-Saëns, qui est faite pour un énorme orchestre, par conséquent, qui a besoin d'avoir un très grand instrument, celui du Victoria Hall. Et puis là, eh bien, Sébastien Brugière, qui a fondé un orchestre de chambre, va faire une réduction de cette œuvre symphonique pour un orchestre de chambre. Et donc, ils vont jouer cette composition dans notre église, à la dimension de cette église, avec un orchestre plus petit et par conséquent avec notre orgue aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que c'est quelque chose qui est comme une sorte de nouvelle création.
Ouais, ouais.
Et qu'on aimerait faire découvrir au public aussi, parce que ça ne se joue jamais dans les églises.
Ouais,
c'est
toujours dans les grandes salles.
Voilà, c'est toujours dans des grandes salles.
Bon, on réannoncera en tout cas, parce que voilà. C'est sûr que ça a l'air d'être assez sensationnel.
En octobre et en décembre.
Ouais. Non, on ne reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même passer à la question un peu du mois. Question évidemment trop large pour en parler en 5 minutes. Mais on voulait s'interroger sur la place de la religion dans l'art à notre époque. Est-ce qu'il y a encore de la place pour mettre des éléments religieux dans l'art, comme ça se faisait beaucoup plus dans toute l'histoire de l'humanité? Maintenant, c'est sûr que ça devient un peu trop tabou. Peut-être pour Philippe, voilà, on parle toujours maintenant des libertés d'expression, la liberté de presse, etc. Est-ce qu'au final, on ne s'est pas enfermé dans ces libertés au tel point qu'on n'ose plus parler des choses?
Oui, je pense que c'est vrai. Mais je joue un petit peu sur les mots. La place de la religion dans l'art, ou on peut poser la question dans l'autre sens, la place de l'art dans la religion.
Ouais.
Parce qu'au fond, la religion, c'est la vie. Après, dans la liberté de ce que chacun pense et ce que chacun croit, aujourd'hui, on est dans ce mouvement-là. J'espère que tout le monde l'est.
Ouais.
Alors, donc, une certaine forme d'expression religieuse, c'est une manière de manifester la vie. Et puis la musique, c'est l'une des très, très belles expressions de la vie. Ouais. C'est un langage universel. Alors, la place de l'art ou dans la religion ou vice-versa, c'est fondamental, parce qu'au fond, toute l'histoire de la musique, en tout cas occidentale, est marquée par des œuvres extraordinaires, mais comme c'est le cas avec la peinture, comme c'est le cas avec la littérature, la philosophie et tous les arts. Alors, cette place, je pense qu'elle est fondamentale. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que les choses sont plus cloisonnées, mais elles sont plus autonomes l'une et l'autre. Et qu'il n'est pas nécessaire d'être religieux pour écouter de la musique ou faire de l'art, et vice-versa.
Ouais, ouais.
Mais l'un ne peut pas être incompatible avec l'autre.
Non, tout à fait. Et c'est très européen, parce que moi qui étudie maintenant, qui étudie à la Haute École des Arts à Berne, voilà, je côtoie beaucoup de nationalités, Amérique du Sud, et puis aussi les pays de l'Est. Et ça, c'est des gens qui ont beaucoup moins peur d'en parler ou qui s'en cachent beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai eu joué des pièces à caractère religieux avec ces personnes et qu'ils prenaient beaucoup plus au premier degré.
Ouais.
Et c'est pas un mal du tout, mais voilà, c'était impressionnant de voir qu'en fait, c'est peut-être nous qui nous sommes un peu fanés. Il n'y a pas besoin non plus en extase, mais qui sommes un petit peu renfermés et qui n'osons plus parler des choses. Je ne sais pas, dans le théâtre, ça me parle moins peut-être.
Alors, dans le théâtre, il y a eu. Le théâtre était dans les églises au Moyen-Âge. Il est parti des églises. On faisait pas mal de théâtre dans les églises, justement, pour raconter ce qui se passait, raconter des passages de la Bible. Pour ceux qui venaient à l'église. Ensuite, le théâtre est sorti, puis il y a toujours eu ce côté profane et religieux, comme avec la musique classique.
Ouais.
Maintenant, je ne suis pas assez fin connaisseur là-dessus pour dire si, à mon avis, il n'y a plus tellement. Mais ce que j'aimerais juste encore dire quelque chose par rapport à notre invité, à Philippe Matet, c'est la place qu'a la musique classique à l'église Notre-Dame des Grâces, justement, parce que pour avoir vu quelques concerts là-bas, puis pour y avoir eu la chance d'y jouer, je trouve que c'est formidable d'avoir que la musique classique puisse avoir une place si importante aussi dans l'église. Voilà.
Moi, je crois que la musique, comme la beauté en général, n'a pas d'étiquette. Et le problème parfois occidental, c'est qu'on veut mettre des étiquettes partout. La musique, elle n'a pas d'étiquette, elle est à tous. Et il se trouve que cette église, elle a pignon sur rue au Grand Nancy, que c'est un endroit favorable pour la musique. On a de bons partenariats avec les concerts de Nancy, avec différents orchestres et ensembles genevois. Alors allons-y, on ouvre les portes et c'est une bonne chose aussi. Je pense que le fait d'inviter du monde à écouter de la musique dans ce lieu-là, c'est une manière de montrer que les portes sont ouvertes pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir son laissez-passer pour dire je suis ceci ou cela. Tous sont bienvenus. Et c'est une manière aussi de situer Nancy dans le paysage genevois parce que c'est un lieu qui est important où il se passe beaucoup de choses associatives. Aussi, la vie associative, c'est une des richesses de notre vie actuelle, je pense.
Et je pensais justement, en lien à ce que tu dis et ce que Bastien disait sur le théâtre, je pense que la différence peut-être principale entre le théâtre et la musique, c'est que le théâtre a un peu cette vocation polémique qu'a moins eu la musique. Si on pense au Tartuffe, par exemple, de Molière, c'était des œuvres un peu assassines pour l'Église. Et en musique, peut-être, je me trompe, mais j'ai moins en souvenir des œuvres qui, comme ça, avaient pour volonté de décrire, de décrier certains aspects de la religion. Mais comment tu te places vis-à-vis d'œuvres un peu plus polémiques ou des choses, des gens qui essayent un peu de secouer le cocotier? Comment tu reçois ça, toi?
Ah, mais moi, j'aime ça parce que c'est l'expression de la vie normale, d'une part. Puis d'autre part, je suis un fan de musique baroque. Et dans la période baroque, c'était ça. C'est très drôle d'écouter la musique baroque. Il y a des pastiches de la vie de la société. Il y a des choses, même dans la musique religieuse, il y a des expressions qui savent dire la vérité sur la vie. Et la vérité sur la vie, c'est aussi savoir poser un regard moqueur, interrogateur, polémique parfois, oui. La musique baroque permet toutes les formes d'expression. Par la suite, on s'est peut-être restreint dans la période classique.
C'est vrai qu'après aussi, là, si on s'élargit un peu aux États-Unis ou comme ça, il y a des prêtres qui sont beaucoup plus polémiques déjà dans leur simple manière de s'adresser aux gens. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une sorte de consensus, un compromis, mais il y a des endroits où même ce qui est dit à l'Église est beaucoup plus polémique que ce qu'on peut voir chez nous. Quelqu'un voudrait encore ajouter quelque chose.
Je crois qu'on arrive au terme de notre émission.
On va te rappeler le festival Gandini, festivalgandini.org, du 13 au 15 avril. Merci Philippe d'être venu, ça nous a fait
plaisir.
Merci
beaucoup. Venez au Grand Nancy, venez vous remplir de plaisir avec la musique et la beauté. Et puis l'enthousiasme aussi de ceux qui le font.
Bien sûr, je crois que des belles personnes. Très bien, alors on se voit le mois prochain.
Merci beaucoup, alors au mois prochain Olivier, début mai.
Début mai, sans doute.